Un tango, une danse, un baiser.
Du peu tapet, petit papet. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Pouvoir se reconnaître dans un personnage de roman, dans un corps filmé à l'écran, sur un plateau de théâtre est une expérience aussi importante que lire les sentiments de quelqu'un qui nous est absolument éloigné, regarder un corps qui ne nous ressemble en rien et s'émouvoir d'une tirade où tout nous est en apparence étranger. Même si les choses bougent doucement dans le cinéma, dans le théâtre français et dans la littérature dans une autre mesure, en ne représentant pas les personnes noires ou en ne le faisant qu'à travers des stéréotypes qui témoignent d'ignorance ou de racisme latent, il n'offre ce cinéma, ce théâtre, cette littérature que trop peu ces expériences. Et cela vaut pour toutes les générations de spectateurs ou de lecteurs confondus, mais l'on pense principalement à celles et ceux les plus jeunes qui se construisent. Comment avanceront nos enfants s'il ne se voit pas? C'est une question qui revient plusieurs fois sous la plume des comédiennes noires qui témoignent dans ce livre collectif « Noir n'est pas mon métier » publié aux éditions du Seuil. Elles s'appellent Nadège Bousson-Diane, Mata Gabin, Maïmouna Gueye, Eye Aydara, Rachel Kahn, Sarah Martins, Marie-Philomène Ga, Sabine Pacora, Firmin Richard, Sonia Roland, Magayadjia Sieberfeld, Shirley Soignon, Assa Silla, Karidja Touré et France Zobba. Elles témoignent et écrivent à votre invitation. Aïssa Maga, bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Chers amis de la grande famille du cinéma, Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Alain Chabat.
Madame la ministre, monsieur le président du CSA,
il est là.
Monsieur le président du CNC, chers amis, chère France, pardonnez-nous de nous introduire ainsi devant vous. Il est vrai qu'il est rare de voir à cette place des citoyens issus des minorités visibles. Au nom de 8 ou 10 millions de ces citoyens, au nom de tous les miens, et ce n'est pas un titre de film, au nom du combat juste et légitime que mène le collectif Égalité pour une véritable représentation de la réalité multiraciale de la France dans tous les médias, dans tous les lieux de la culture, nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement, imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noirs. Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Et cela depuis la naissance de la radio, de la télévision et du cinéma. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons. Mais ce n'est pas une fiction. Seulement, notre dure réalité dans un monde de blanc qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. Nul ne sort indemne d'un tel scénario.
Il y a assez peu de rebours.
Et nous ne souhaiterions à personne ces exclusions, ces humiliations et ces souffrances.
Permettez-nous d'espérer que l'année prochaine, il n'y aura pas dans cette salle et dans ce pays un peuple acteur et un peuple spectateur, mais au contraire, un autre scénario qui permettrait à tous de jouer tous les rôles. Au nom des grandes valeurs de ce pays, nous voudrions ce soir dédié un César à la doyenne des acteurs noirs français, Darling Legitimus, prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise, en Italie et pas à Cannes, pour son rôle dans Rue Cazenègre. Elle nous a quittés le 7 décembre dernier. Merci encore, vous pouvez nous couper.
C'est la cérémonie des Césars en 2000. C'est donc il y a 18 ans, Aïssa Maïga, et c'est la voix de Luc Saint-Éloi et Calixte Payala qui s'invitent. Bonsoir et presque excusez-nous de faire irruption ici. C'était il y a 18 ans. Est-ce que vous vous souvenez de où vous en étiez, de votre conscience de cette question-là à ce moment-là?
J'ai vu l'émission en direct à la télévision. C'était une surprise, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été saisie par leur audace. C'était absolument inattendu, à la fois dans la cérémonie, mais plus généralement dans le paysage de l'époque. Enfin, c'était pas le genre d'action auquel on s'attendait. Et voir ces deux personnes, Luc Saint-Éloi, Calix Béala, noirs tous les deux, lui homme de théâtre, elle écrivaine, je crois que je les connaissais un petit peu, tous les deux à l'époque. C'était saisissant parce que d'un seul coup, ils ont donné voix à quelque chose que je ressentais très fortement, que mes camarades comédiens et comédiennes noirs, arabes, asiatiques ressentaient également très fort. Et il faut imaginer, il faut recontextualiser, il faut imaginer un monde sans réseaux sociaux, c'est difficile à se le figurer aujourd'hui. Il faut imaginer une presse qui ne laisse aucune place aux personnes qui ne sont pas blanches. C'est très très rare à l'époque, sauf peut-être dans certains magazines, plus à la marge. Il faut imaginer donc un espace dans lequel il n'y a justement pas d'espace pour ces voix-là. Et moi, j'ai été très impressionnée par leur audace. J'étais dans une grande adhésion à ce qu'ils disaient parce que je vivais la même chose. Je vivais en tout cas ce qu'ils racontaient de l'autre côté. C'est-à-dire que là, c'était une interpellation au public. Et moi, j'étais de l'autre côté. J'étais jeune comédienne. J'essayais d'accéder à des castings. J'essayais de décrocher des rôles qui soient de vrais rôles avec une vraie psychologie, qui ne soient pas des stéréotypes toujours négatif des femmes noires. Les figures récurrentes à l'époque, c'était la femme excisée. On parlait énormément de l'excision, mais à croire qu'il n'y avait que ça.
Que
donc,
ce genre de
voilà,
corps abîmé.
Voilà. On parlait de mariage forcé, évidemment. On parlait de quoi d'autre? De prostitution, de drogue. C'était vraiment quelque chose de très envahissant. C'est-à-dire que ça occupait quasiment tout mon espace mental. Je n'arrivais plus à penser mon métier autrement qu'avec l'idée qu'il fallait que j'échappe à ça. Donc c'est très particulier, hein, parce qu'on se sent agressé de façon quasi continuelle, en tout cas continue, et on ne sait pas exactement quelles armes on va pouvoir développer en soi et vers le monde pour pouvoir exister et surtout exercer son métier dans la dignité.
C'était des armes de discours qui manquaient à l'époque, c'est des possibilités d'articuler justement la situation telle qu'ils le faisaient eux, mais dans la forme d'un constat.
Oui, alors moi, il y a 18 ans, en gros, je sortais du lycée, j'avais déjà quelques années de comédie derrière moi, et j'ai dû vraiment aller chercher des lectures, mais toute seule, hein, un petit peu dans le noir, en tâtonnant. Des rencontres qui m'ont aidée, des gens qui m'ont dit « Tiens, tu devrais lire ça ». Ça a été l'ouvrage de Sylvie Chalaille, qui s'appelle « Du noir au nègre », qui revisite la figure du noir et des comédiens noirs dans le théâtre français de 1550 à 1960. Je crois que c'était un travail de thèse qui est absolument frappant parce que très documenté. Et se passant, enfin, elle revisite l'histoire du théâtre en France à travers ce prisme. Et c'est une sorte de déambulation très fournie dans le Paris d'autrefois. Et certains théâtres qui sont décrits dans cet ouvrage sont des théâtres qui existent encore aujourd'hui. Et donc, d'un seul coup, cette histoire qu'on me racontait à l'extérieur, quand on me disait qu'il n'y avait pas de place dans les castings, quand on me disait que, bon, bah voilà, les Noirs venaient d'arriver, donc bon, il fallait être un petit peu de temps, était absolument contredite et de façon très magistrale dans l'ouvrage de Sylvie Chalaille. Ça, c'est un exemple parmi d'autres pour montrer que j'ai dû faire ce chemin solitaire, ce chemin qui n'était pas exactement celui d'une comédienne lambda, pour creuser dans des récits qui visitaient l'histoire, qui avaient un regard critique, pour essayer de récupérer en fait ce qui ne m'avait pas été donné de comprendre à travers ni le système scolaire, ni mes premières années de travail dans le cinéma et dans le théâtre en France. Et ce travail-là, il est en fait salvateur. Il m'a aidé à sortir de l'obsession en fait, qui m'était d'une certaine façon imposée. Et ça m'a aidé à comprendre que nous étions le fruit d'une histoire, d'une construction sociale, historique, économique, démographique, qui datait non pas d'une ou deux générations, mais de plusieurs siècles. Et cette connaissance-là aide à prendre de la distance et aide à comprendre que finalement...
Parce qu'elle décentre ou parce qu'elle historicise ? Parce qu'elle fait que d'un seul coup, ce n'est plus obsessionnel parce que ce n'est plus seulement soi.
Exactement.
C'est et le... aussi parce que ça en fait l'histoire.
Ça en fait l'histoire et ça permet de comprendre de quelle façon les gens sont agis par l'histoire. Et ce travail, moi, j'ai dû le faire parce que j'étais acculée. Mais les directeurs de casting, les cinéastes, les producteurs ne le faisaient pas.
Ils les journalistes
étaient, les journalistes non plus, non. Ils étaient dans, comment dire, dans leur temps, dans l'ici et maintenant de l'époque, et dans quelque chose d'anecdotique à chaque fois, qui ne l'était pas, qui n'était absolument pas anecdotique, puisque les réactions étaient uniformes d'une certaine
c'est ça,
façon.
Ils étaient à la fois dans leur temps et aussi dans la norme. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez dû produire et dont vous dites que vous l'avez fait parce que vous étiez acculé, c'est aussi parce que tout le monde d'en face n'avait pas à se poser les questions puisqu'ils étaient du côté du dominant et du côté de la norme, donc oui. Pas questionnés.
Dans une forme de confort ou de tranquillité par rapport à, ou d'ignorance totale, hein, par rapport à ces questions-là. Et ce travail, il m'a passionnée. Au-delà du fait que je me suis sentie acculée et que j'ai dû aller creuser pour comprendre pourquoi ce rejet, pourquoi l'invisibilité, pourquoi les stéréotypes, les clichés, pourquoi cette insulte en fait permanente. Et au fond, ça m'a vraiment passionnée. Ça a été aussi une opportunité incroyable de creuser dans l'histoire de mon pays, dans l'interaction de mon pays avec ses anciennes colonies, d'où je viens aussi, du Mali, du Sénégal. Et c'est un travail qui, je pense, doit être donné. C'est un travail qui doit être apporté. Il me semble que c'est vraiment important qu'au cours du cursus scolaire, dans un pays aussi métissé, dans un pays aussi mélangé, dans un pays qui est face à des challenges énormes, dans un pays qui a aussi produit ses ghettos, dans un produit qui a du mal à représenter la réalité multiple, il me semble que ce travail, il doit être accessible aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, et puis ensuite à tous ceux évidemment qui ont envie de, qui s'intéressent à ces sujets-là. Mais traverser une enfance, une adolescence sans avoir l'opportunité de comprendre ce qui se joue de façon cruciale aujourd'hui, c'est une dynamique d'omission qui est assez grave.
Et en même temps, quand vous dites ça, traverser une enfance et une adolescence, ça renvoie à quasiment à l'entièreté des témoignages qui sont présents dans ce livre, et qui est que l'arrivée dans le métier de comédienne a été un moment crucial dans le face-à-face avec le racisme et la discrimination, comme si, pendant l'enfance et l'adolescence, pour la majorité d'entre elles, il m'a semblé lire sous leurs plumes, ça ne leur avait pas été renvoyé. Comme si vraiment ce moment d'être choisi pour représenter quelque chose et qui plus est dans la fiction était un moment particulièrement discriminant.
Alors, dans mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, et je crois que c'est la même chose à peu près pour
toutes les femmes qui
toutes
s'expriment.
Les femmes qui s'expriment dans le livre, on a rencontré, évidemment. Il suffisait d'allumer la télévision et de voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était chez Stéphane Collaro, donc c'est l'équivalent de... Je sais pas, d'Hanouna aujourd'hui, quoi.
C'est un show télévisé,
à heure de grande écoute, tous les jours. Et il y avait à chaque fois que la pub devait être annoncée, un homme noir, avec une dentition très présente, ça arrive à des gens très bien, avec un accoutrement, enfin c'était vraiment le sauvage. Et derrière l'idée du sauvage, il y avait aussi l'idée du cannibale. Et ça, c'était tous les jours à la télévision, et c'est un exemple parmi d'autres. Donc nous qui étions, pour certaines en tout cas, qui étions petites filles à l'époque, on a été imprégnées par ces images-là, et même si on ne se sentait pas visé à titre personnel, on sentait bien qu'on avait un point commun avec cette personne, puisqu'on avait la même couleur de peau. Et donc la télévision, enfin l'art populaire était fait quand même de figures qu'on qualifierait aujourd'hui de raciste, tout simplement. J'ai rencontré à plein de moments de mon enfance, mon adolescence, des moments où le racisme s'est exercé à mon encontre. Mais quelque part, c'était le monde extérieur. C'était pas forcément des gens avec qui j'étais obligée d'interagir en permanence, etc. Bon, c'était là. Point barre.
Et
moi, je faisais ma
métier.
Vie. Voilà. Et le fait d'être en même temps pendant toutes ces années-là, nourri, pétri des idéaux républicains, égalitaires, a fait aussi, je crois, que qu'on s'est dit, bon, ça existe, c'est là, mais ça n'est pas la norme. Ça n'est pas normal. Or, en entrant de plein pied dans le monde du cinéma, dans le monde du théâtre, enfin, pour moi, ça a été vraiment la douche froide parce que j'arrivais avec des idéaux, tout simplement.
Mais toutes. Et oui. Vous l'écrivez toutes.
Ah, mais l'espoir, toutes. Je pense que le cinéma et le théâtre représentaient, malgré tout, un îlot idéalisé dans lequel, là, pour le coup, on pouvait tous être égaux et dans lequel on pouvait tous représenter la réalité ou représenter un idéal de façon, presque post-raciale. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me,
mais par la force
qui
de
m'animait.
La par la force de la littérature, des mots et de ce qu'est la fiction, on sent quelque chose d'extrêmement fort dans tous ces témoignages qui tiennent au fait que, en choisissant ce métier, il y a une foi dans l'art, en fait.
Oui.
Il y a une foi dans l'art et donc s'il y a bien quelque chose qui est post-racial et qui doit toucher à l'humain, c'est l'expression artistique. Et en fait, on sent que la chute, elle est d'autant plus grande que l'amour de l'art... Alors, je ne sais pas si vous avez choisi spécialement des personnes animées incroyablement par leur métier, mais on sent la chute d'autant plus grande que l'amour de l'art était grand au départ et n'a probablement pas été si ébranlé que ça. Mais elles arrivent avec un très, 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 très grand espoir là-dedans.
C'est un choix de vie énorme. De choisir d'être acteur, d'être actrice, au-delà... Enfin, je parle vraiment pas du star system, hein, je parle vraiment de ce qu'on... La façon dont qualitativement on choisit de remplir nos journées, notre esprit, l'amour de l'art, comme vous disiez, des textes, des auteurs. On a tout rêvé sur les textes classiques qu'on a rencontrés au collège ou au lycée.
Ou au conservatoire.
Ou au conservatoire, pour certaines. On a tout... était aussi dans la projection par rapport à certaines actrices qui étaient des actrices immenses comme Gina Rowlands dans les films de Cassavetes ou d'autres. La liste serait longue. On a été nourris par ça et c'est vrai que la déception était d'autant plus grande et violente que rien n'était dit. Rien ne nous préparait. Je pense que chacune, on savait confusément ou alors de façon très claire que la question de la couleur de peau allait se poser. Pour ma part, comment dire, ça n'a jamais été une barrière dans mon esprit. A priori, ça n'a pas été une barrière, c'était un challenge. Et la violence s'est exercée à travers des mots très simples, des refus. Je me souviens très bien être arrivée dans des castings parfois en ayant pris mon courage à deux mains, en me disant, bon, là, les copines m'ont dit qu'ils cherchaient plusieurs rôles de jeunes filles de 20 ou 25 ans, qui était mon âge à l'époque. Voilà, bah, je vais y aller et je
avec le même entrain que n'importe quelle autre comédienne.
Le même entrain et en même temps la conscience que on franchit une ligne, une forme d'interdit. Et lorsque j'arrivais, et mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait des caméras cachées à l'époque. Parce que je pense qu'on ne peut pas se figurer quelle était la violence des réactions. Soit dans le silence, et parfois j'avais l'impression que la scène se jouait au ralenti. D'un seul coup, ce casting, ou cette casting qui ouvrait la porte, était abasourdi de voir un être de couleur non blanche en face de lui. Et parfois, on se faisait virer, mais vraiment comme des malpropres. Et l'agent derrière s'en prenait plein la tête parce qu'il était... Bah voilà, c'était vécu comme une forme de provocation. Donc cette forme de, comment dire, de réaction sur la défensive montrait bien qu'il y avait une intranquillité par rapport à ce sujet. Les gens en face de nous savaient bien qu'ils ne pouvaient pas, comment dire, assumer pleinement. Donc il se réfugiait derrière l'anecdote, derrière le petit moment vécu. Non, on ne cherche pas, on n'a pas dit, c'était pas écrit, on n'a pas dit qu'elle était noire, etc.
Mais en même temps, la surprise que vous décrivez, et ça m'a égale, vient du fait que dans leur tête, ça n'était pas possible. Et en vous écoutant à l'instant, je repense à une femme qui s'appelle Caroline Gula Nguyen, qui a monté il n'y a pas très très longtemps une pièce de théâtre, notamment sur la communauté immigrée venue du Vietnam à Paris, et qui disait « Il y a beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui ne sont pas de couleur blanche, à qui l'on refuse la fiction. » Et la plus grande violence, c'est cette possibilité d'entrer dans la représentation de quelque chose qui ne serait pas le réel, nos vies communes. Et il me semble que dans ce que vous décrivez, la porte fermée, elle est non seulement, elle traduit du racisme latent, et elle traduit quelque chose qui est, vous ne pouvez pas entrer dans ce territoire gardé qui est celui de l'invention et de la fiction.
Et de la représentation.
Et de la représentation.
De la représentation, parce que... En fait, ce qui était frappant, et je me souviens, on en parlait avec Nadège Bosson-Diagne à l'époque, on était
l'une
déjà très amis, une des auteurs du livre, avec Mata Gabin également. Je ne sais plus exactement à quelle occasion on s'est rencontrés, mais je sais que le jour où on s'est rencontrés, et qu'on a compris qu'on était les unes et les autres comédiennes, ça a tout changé. Parce qu'on a, jusque-là, on vivait de façon extrêmement isolée. Moi, je suis arrivée, je connaissais personne dans le métier. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, encore une fois, donc bon, t'allais à un casting, et puis peut-être à ce moment-là, si les horaires le permettaient, tu tombais sur quelqu'un que t'allais connaître, etc. Mais d'un seul coup, le fait de pouvoir entendre les récits des autres aussi, ça corroborait quelque chose. Enfin, on savait intimement, c'était vraiment de l'ordre de l'intuition, on ressentait le fait que c'était quelque chose qui dépassait à chaque fois la situation précise qu'on était en train de vivre à titre individuel. Et ça, ça a vraiment... Ça nous a permis de commencer à forger nos armes.
C'est l'histoire de toutes les luttes. La mise en relation des témoignages, des discriminations qu'on croit uniquement individuelles, ça vaut pour les LGBT, pour les femmes, et pour toutes les discriminations. Donc ça commence par là.
La question du terme black, c'est que c'est pas juste un mot. C'est qu'est-ce que ce mot reflète? J'explique souvent ça. Moi, je ne dis pas les whites. Je dis pas, ah, j'ai un pote white. Et en plus, c'est ridicule si je dis j'ai un pote white. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on passe par le biais de ce mot en anglais? Est-ce que ça vient juste de l'histoire du hip-hop et des années 80 où, voilà, c'est un peu cool le côté afro-américain? Ou est-ce que ça révèle pas aussi un malaise dans la société française quant au fait d'utiliser le mot noir? Moi, j'ai pas de problème avec le fait d'utiliser le mot noir ou le mot blanc. Mais est-ce que, par contre, les personnes qui disent black systématiquement, si elles ne disent jamais noir, peut-être qu'elles doivent s'interroger sur pourquoi elles ne disent jamais noir. Et donc pour moi, c'est ça qui était important, c'était de montrer comment un enjeu qui peut paraître voilà, complètement justement dépolitisé et de dire « Oh mais alors vous, vraiment, vous aimez faire des histoires pour tout et n'importe quoi, alors ça y est, on peut plus dire black et tout. » Mais c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de tous les mots qu'on utilise pour éviter des questions sociales en France. Et je donne souvent cet exemple-là avec le terme « contrôle aux faciès », qui pour moi me semble aussi être un évitement. C'est du profilage racial.
Profilage racial.
On ne contrôle pas les faces de tout le monde. On contrôle les faces des Noirs et des Arabes. Donc c'est du profilage racial. Mais en disant contrôle aux faciès, on évacue la question raciale. Et donc pour moi, c'est tous ces termes qui en France permettent en fait de ne pas aborder les questions frontalement. C'est pareil, ce n'est pas de la discrimination positive. Ce sont des mesures correctrices d'inégalité. Parce que l'affirmative action, qui est le terme en anglais, ce sont des mesures qui visent à faire qu'à compétence égale, les personnes qui sont d'ordinaire discriminées aient une chance d'avoir un poste. Donc il ne s'agit pas de discriminer qui que ce soit, il s'agit d'enrayer, d'éradiquer la discrimination en mettant en place des mesures correctrices d'inégalité. Quand on dit discrimination positive, on sous-entend qu'il y a un groupe qui va être pénalisé et que c'est le groupe majoritaire qui d'habitude en fait est favorisé. Donc ça pour moi c'est vraiment toutes les questions de on a besoin de recadrer un peu les termes et le discours. Parce que sinon, effectivement, soit on ne voit pas la dimension politique de certains sujets, soit en fait, en plus, on stigmatise les personnes qui demandent juste une égalité réelle, une égalité en droit.
C'est la voix d'Amandine Gay en octobre 2017 sur le plateau de Mediapart, qui vient notamment en tant que réalisatrice du film Ouvrir la voie. Aïssa Maïga, avant de revenir précisément sur ce qu'elle interpelle là, à savoir se pencher sur les mots et l'usage des mots, à savoir ici le terme black en lieu et place du mot noir, entre autres choses, peut-être dire à quel point le visionnage de ce film-là, Ouvrir la voie, et de la parole de certaines personnes qui y sont interrogées, a été l'un des points déclencheurs de la rédaction de ce livre collectif Noir n'est pas mon métier.
En fait, l'année dernière, j'ai reçu un matin au réveil un SMS d'une amie dans lequel il y avait un lien. J'ai cliqué sur ce lien et le titre de ce lien, c'était mon prénom et mon nom avec un point d'interrogation. Aïssa Maïga, point d'interrogation. J'ai été un petit peu intriguée quand même. J'ai cliqué et là, je suis tombée sur un teaser qui donc n'est pas dans le documentaire final, qui était un teaser d'Ouvrir la voie d'Amandine Gay, dans lequel elle interroge des femmes noires françaises en leur demandant de lui citer le nom de 5 comédiennes noires françaises. Et le montage est vraiment très bien fait parce qu'il fait vraiment ressortir l'invisibilité. Puisque ces femmes noires qui sont voilà, de mon âge, de ma génération, qui sont censées peut-être prêter un petit peu l'attention lorsqu'elles voient une comédienne noire, puisque c'est suffisamment rare en France, ne sont pas en mesure de citer le nom de 5 comédiennes. Et ça, ça a été un coup de griffe en plus parmi tous ceux que j'ai pu ressentir ces dernières années, puisque je m'étais dit, bon, ça faisait 15 ans, disons, que j'étais comédienne à ce moment-là. Durant ces 15 années, j'ai constamment pris la parole à l'occasion de promos de films ou alors à l'occasion d'enquêtes menées par des journalistes sur la question de la présence des Noirs dans le cinéma, le théâtre français. Vous ressentez la lassitude dans ma voix. Au bout de 15 ans, j'étais un petit peu fatiguée parce que, d'abord n'étant pas sociologue ou historienne, ne faisant pas de la recherche, j'avais le sentiment de me répéter et surtout de me répéter dans un contexte qui, lui, n'évoluait quasiment pas. Donc j'ai décidé de me taire en me disant que finalement, ce qui était important, c'était d'apparaître dans les films, d'arracher les rôles complexes, les rôles intéressants qui permettaient une représentation autre et du coup de frapper les esprits en douceur d'une certaine façon pour que la question de la présence des Noirs s'évacue d'une certaine façon en se normalisant, en se banalisant. Et ça, ça n'a pas marché non plus. Il y a des comédiens, hein, des comédiennes qui sont apparus, mais ça reste extrêmement... on est extrêmement peu nombreux et finalement, en étant là, on ne fait que confirmer la règle selon laquelle le cinéma, le théâtre en France reste très très blanc. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Ça faisait quelques années que je m'interrogeais sur les bonnes actions à mener et en même temps, dans ce contexte, les luttes afro-féministes sont apparues, des voix qui jusque-là étaient inaudibles ont été entendues en grande partie aussi grâce aux réseaux sociaux, et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et en fait, ça a été une réaction pulsionnelle. J'ai écrit un texte vraiment pour me mettre mes idées au clair et les organiser, puis voir tout simplement ce qui allait apparaître. Et puis, je suis partie en tournage pendant quelques mois. J'ai travaillé, j'ai fait autre chose. Et en revenant, j'ai ressorti ce texte et je l'ai fait lire à Charlotte Rotman, qui est une personne très importante dans l'aventure de ce livre. C'est notre éditrice qui a fait un travail d'accompagnement extrêmement pertinent et sur une durée extrêmement courte. Et il est apparu évident très rapidement que ce texte, ça allait devenir sans doute l'ouverture d'un livre, et c'est devenu le prologue de Noir n'est pas mon métier, et que cette parole devait être portée de façon collective, de façon assez massive, peut-être spectaculaire, pour être entendue d'une certaine façon une bonne fois pour toutes et surtout pour poser une pierre, une première pierre vers un chemin qu'il est de notre responsabilité de tracer.
C'est intéressant, Aïssa Maïga, que vous mentionniez l'apparition, en tout cas la popularisation des mouvements afroféministes, notamment par les réseaux sociaux, mais peut-être aussi plus en profondeur dans les universités françaises, parce que c'est extrêmement présent aux États-Unis, un tout petit peu moins dans notre pays, comme étant en fait le lieu de l'intersectionnalité qui a permis peut-être la réunion de vos paroles, parce qu'il n'est pas anodin que dans ce livre, il n'y ait que des femmes. Ce sont des comédiennes femmes que vous avez été voir. Or, les hommes noirs manquent aussi aux écrans de nos télévisions françaises, de nos cinémas, de nos théâtres, et je le disais tout à l'heure parce que c'est important pour moi, de la littérature. Donc c'est vraiment à ce croisement-là du féminisme et de la question noire que vous vous situez dans l'appel que vous faites à ces comédiennes-là.
De la question noire et de la question de l'altérité également. J'ai pas eu le temps de me poser 1000 questions parce que les éditions du Seuil... Oui, c'était très bien. Les éditions du Seuil ont saisi la balle au bon et il a fallu tout boucler en un mois. Et donc, j'ai vraiment suivi mon instinct. Il fallait aller vraiment très vite. Et j'ai vraiment voulu focaliser sur la question des femmes parce que la question du genre est très importante dans la question de la représentation. Que ce que nous vivons, nous, en tant que comédiennes, les noires, les comédiennes autres que noires, blanches comprises, le vivent aussi. La question du corps, la question du vieillissement, la question le fait de ne pas correspondre à une norme, tout simplement.
Et s'applique plus violemment aux femmes qu'aux hommes.
Exactement. Et puis d'ailleurs, il y a un chiffre qui est sorti récemment. La carrière d'une actrice, en général, dure 8 ans. Honnêtement, c'est...
Bad luck.
C'est un scandale. Enfin, je fais une toute petite parenthèse. Il y a le Tunnel des 50, qui est une association de femmes comédiennes de plus de 50 ans, qui se battent en ce moment contre l'invisibilité. Et pour moi, vous parliez d'intersectionnalité, ce sont toutes les luttes qui doivent se rejoindre aujourd'hui concernant les femmes.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
La manière dont les discours de ces comédiennes que vous réunissez dans ces livres sont organisés, elles montrent bien que c'est indissociable. Qu'elles sont des femmes noires, des femmes noir. Enfin, on ne peut pas entendre ces deux termes-là qui seraient dissociés, y compris dans la manière dont elles prennent la parole. Alors, vous faites quoi? Vous envoyez des messages, chères vous toutes?
Oui, j'envoie des SMS. Celles dont je n'ai pas le numéro, je leur envoie un message sur Instagram, sur Facebook. Et c'est un message très court. Hein. Je leur dis que j'ai proposé aux éditions du Seuil de réunir nos témoignages d'actrices noires françaises dans un livre. Et je leur ai demandé si ça les intéressait. 98% des comédiennes ont répondu oui, tout de suite. Nous sommes prêtes. Enfin, je suis prête. Je veux. Il y avait une forme d'attente qui s'ignorait.
C'était mûr, en fait.
C'était... Mais honnêtement, les réactions étaient impressionnantes parce que, au fond, chacune a développé ses propres outils pour survivre à, voilà, cet état de fait. Et en même temps, d'une certaine façon, je pense qu'on a toutes, à un endroit, intériorisé le fait que pour nous, c'était dur. Et là, d'un seul coup, c'est comme si une fenêtre s'ouvrait et que l'expression de nos vécus pouvait enfin prendre corps. Le fait de parler toutes ensemble était un élément très important pour sortir de l'isolement, comme vous le disiez tout à l'heure. Et du coup, on s'est mis en ordre de marche, ça a été immédiat. Et je pense que qu'une forme de... Enfin, j'aime pas trop le mot famille, c'est pas exactement ça, mais un groupe aux attaches extrêmement fortes est né. Et pour moi, il est évident que nos actions vont s'inscrire sur le long terme.
Avec la force de la constitution d'un témoignage commun, dont je disais tout à l'heure que c'est absolument très souvent le premier caillou, la première pierre de l'élaboration des luttes. Pour revenir à ce qu'on entendait dans la voix d'Amandine Gay, un instant, le fait qu'elle s'intéresse à l'usage du mot black à la place du mot noir. Noir, c'est un mot qui figure sur la couverture. Cette expression « noir n'est pas mon métier » sous d'autres formes arrive aussi dans les textes. Qu'est-ce que ça dit, justement, cet usage du mot « black » et peut-être plus généralement la manière dont vous disiez tout à l'heure que, au lieu des discriminations, on remplace par des anecdotes, on remplace par de l'individualisation du rejet, on remplace par « non, pas cette fois-ci, pas ici, mais en fait, ça n'est pas un système ». C'est une désystémique, c'est quelque chose qui ne fait pas système qui est mis en place selon vous. On oublie de voir, on ne veut pas croire que ça fait système aujourd'hui.
Alors,
la discrimination des femmes noires.
Il me semble qu'il y a une majorité silencieuse dans le cinéma. Ça fait longtemps que je fais ce métier. Je connais beaucoup de monde, des gens qui sont à différents postes, des postes de décision, des artistes, des
quoi, production,
des techniciens,
réalisation, voilà, techniciens, voilà, oui, comédiens, comédiennes.
Il y a en fait, et c'est ça qui, ça fait partie de la contradiction de notre pays. Hein, il y a des gens dont les valeurs se reconnaissent totalement dans ce qu'on raconte dans le livre. Et qui pourtant chacun sont, ce sont des gens qui sont isolés et qui n'ont pas les moyens, parce qu'isolés, de faire levier et de faire bouger la situation. Typiquement, un réalisateur, une réalisatrice qui écrit un rôle pour moi, pour Nadège, pour Magagia, peu importe, et qui n'arrive pas à monter son film. Et qui est isolé tout seul avec cette question-là.
Qui ne pourra pas le monter parce qu'il n'aura pas l'argent pour le faire.
Il n'aura pas l'argent pour monter un film qui n'est pas une comédie avec une actrice noire française. Il y a des castings qui, tous les jours, essayent d'élargir les propositions auprès des chaînes et qui ont un mal fou à le faire. Et ce livre, il s'adresse également à ces gens-là. Parce que, mais ça, c'est parce que c'est dans mon caractère. Je suis une très grande optimiste. Quand tout va mal, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réfléchir aux solutions. Et les solutions ne pourront être mises en place que si nous avons des alliés. Et donc ce livre, il s'intéresse en creux également à la question de quelles sont les valeurs qu'on défend, au-delà du fait que nous sommes des actrices, que nous sommes des actrices noires, et que c'est important de taper du poing sur la table, que c'est important de nommer ce problème en étant très spécifique comme on l'est à travers le livre, ce livre de témoignages. Mais c'est aussi, pour moi, le début d'une action qu'on va mener ensemble. Moi, je ne ferai rien bouger toute seule. Le cinéma, c'est une industrie. Et c'est une industrie qui repose sur des équipes, sur le collectif. Et donc, ce sont ces équipes-là, de façon un petit peu élargie, qu'il va falloir identifier, il va falloir interpeller les institutions, il va falloir remettre en cause, peut-être, le système d'attribution des aides, des financements, des subventions.
Et voir les commissions de ceux qui les attribuent.
Voir les commissions, évidemment. Réfléchir à la question des quotas, réfléchir à la question des mesures incitatives, financières, réfléchir à la question des cahiers des charges et de la façon dont on peut s'assurer du fait
que c'est appliqué.
Que les objectifs vont être atteints. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'intéresse.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl, and me, oh Lord, is one. Go tell my baby sister, never do what I have done, to shine the house in New Orleans. They call the rising sun.
Observe, c'est qu'en 2005, il y a les fameuses émeutes de banlieue qui vont obliger l'État, en fait, à prendre des mesures. Ça va être la création de la commission Images et Diversité, avec le CNC, qui va, en gros, l'idée, c'est de promouvoir, d'aider financièrement les films qui mettent en avant la diversité. Donc, c'est quand même, en 2005, on est sur une forme de discrimination positive, finalement, si on regarde bien, comme on peut faire avec les femmes dans la parité en politique. Cette idée volontariste de promouvoir un petit peu la diversité française. Donc ça commence à changer là. Et effectivement, en 2012, Intouchable, c'est un peu la conséquence de tout ça. Et c'est un vrai tournant. C'est-à-dire que là, on a quand même un acteur qui est césarisé pour un premier rôle. Et surtout, c'est un film qui cartonne, qui fait 20 millions d'entrées. Je sais pas si on imagine, mais c'est un Français sur trois qui l'ont vu en salle, quoi. Ça faisait tellement longtemps que le cinéma n'avait pas eu ses stars noires. Quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des stars noires dans le sport, bien sûr, en France, dans la musique. Il y avait un boulevard dans le cinéma. Omar Sy est arrivé au bon moment. Il a du talent, mais c'est vrai qu'il remplit un vide qui était criant. Alors le problème aussi, c'est qu'on a l'impression soudain que, et d'ailleurs je m'en doutais dès 2012, quand il y a eu le César, c'est que, voilà, on a récompensé un noir, maintenant c'est bon, c'est fait, on a un acteur noir, c'est un peu le noir de service. Et voilà, donc on n'est pas raciste et c'est réglé, quoi. Sauf que ça n'a rien résolu, en fait. D'une part, parce qu'il est le seul acteur noir d'envergure en France. Qui on peut citer, sinon? Alsa Maïga, éventuellement. Joe Starr, éventuellement, mais encore. Donc c'est vraiment le seul acteur noir de renom. Et par ailleurs, ce qui m'embête le plus, c'est que finalement, il interprète des rôles encore stéréotypés. Et ça, c'est très embêtant. Mais si on va plus loin, et c'est là où c'est encore plus pernicieux, ce que joue Omar Sy dans ce film, c'est un corps. D'ailleurs, il le dit volontiers en interview, il s'est musclé, etc. Il est le corps du paraplégique, interprété par François Cluzet. Très clairement, ça, c'est pas innocent. Alors, personne ne l'a vu, et pour moi, ça me choque. Pourquoi? Parce que le noir a toujours été un corps dans l'imaginaire blanc, français, occidental et colonialiste. Le noir, c'était l'esclave. Ça a été le tirailleur sénégalais, la force noire. Ça a été le sportif, hein, le boxeur, le footballeur. Ça a été le travailleur immigré, donc la force de travail. Et bien sûr, tout ce que ça connote aussi de performance érotique aussi. Hein. C'est bien connu, le noir, il est hypersexué. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand on renvoie systématiquement le noir à l'aspect physique, en fait animal et finalement primitif, on lui nie aussi l'aspect cérébral intellectuel. Omar Sy, dans ce film-là, en fait, il amène en fait du sensitif, du sensuel aux malades, en fait, aux handicapés. Et ça, c'est une tendance depuis très longtemps. Le noir incarne celui qui va nous libérer un petit peu par la danse, par la musique, par le rire. Et ça, c'est problématique parce que finalement, qu'il y ait un personnage stéréotypé dans une comédie, bon, on a l'habitude, hein, la comédie n'est fait que de stéréotypes. Mais le problème, c'est que les Noirs ne jouent que ce type de rôle.
C'est la voix de Régis Dubois, historien du cinéma, qui fait une sorte d'histoire accélérée de la visibilité du corps noir dans le cinéma français dans les quelques années qui viennent de s'écouler. Et il revient en 2005, émeute dans les périphéries urbaines, qui a pu constituer politiquement un moment de visibilité pour des corps qui étaient des corps non blancs. Et il le lie avec des mises en place de politiques, notamment économiques, dans l'art, dans le cinéma, d'incitation à la minorité visible à l'écran. Évoque 2012, l'arrivée d'Omar Sy et la récompense qui s'ensuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec Régis Dubois pour dire qu'en récompensant Omar Sy, déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur l'articulation des deux séquences, 2005 et ce qui a pu se passer à l'écran, et qu'en récompensant Omar Sy, le cinéma français fait œuvre de bonne conscience et se libère d'avoir traité frontalement cette question-là, Aïssa Maïga?
D'abord, par rapport au film Intouchable, je doute que le film se soit monté grâce au fonds Images de la diversité du CNC qui a été effectivement mis en place au tournant de l'année 2005. Pour autant, je pense qu'il y a évidemment un lien entre les révoltes en banlieue, ce dispositif spécifique, et spécifique pour une raison aussi très simple, c'est que en tout cas jusqu'à récemment, cette aide n'était accessible au CNC que si on avait déjà obtenu une autre aide au CNC d'un autre guichet. Et cette aide était plafonnée au montant de la première aide. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de tout à fait problématique parce que c'est une aide qui n'est pas complètement légitime. Elle n'est légitime que si, dans un autre guichet, on vous a déjà donné carte blanche, on vous a déjà donné votre laissez-passer. Et puis, c'est pas une ouverture totale. Et pour moi, la question de la diversité, elle ne doit pas être traitée à travers un seul guichet spécifique qui, de fait, devient un petit peu ghetto. Mais c'est une idée qui doit être infusée.
Partout.
Partout. Dans tous les guichets. Parce que, finalement, la question de savoir comment on compose un casting dans un film, elle ne se pose pas uniquement pour les films qui parlent, entre guillemets, de la diversité. Pour moi, il est vraiment question de prendre un petit peu de recul, de prendre du champ et de regarder cette question de façon globale et d'arriver à intégrer l'idée que la modernité, la contemporanéité avec ces questions-là, elle doit s'exercer dans tout le cinéma français. Avec, évidemment, une notion un petit peu de liberté créatrice pour chacun, ce qui est normal. Mais on ne peut pas se soustraire à ces questions-là en prétendant la régler à travers un seul guichet spécifique. Et c'est vrai que l'arrivée d'Omar Sy, elle a été un petit peu hystérique. Elle a été un petit peu hystérique aussi. Enfin, ce regard hystérique, il s'est posé aussi sur le corps de ce présentateur télé, journaliste du 20h, Harry Roselmack, qui est arrivé à peu près au même moment, 2006 ou 2007. Il a été une réponse pour juguler la crise sociale énorme.
De non-représentation des corps noirs à la télévision.
Voilà. Et du coup, forcément, enfin, on ne peut pas observer l'arrivée d'Omar Sy sans se poser la question du contexte. Si je devais parler de mon parcours, en 2006 ou 2007, je suis nommée au César pour le film Bamako, mais je sais pertinemment que je le suis. Sans doute, les gens du métier auront aimé ma prestation dans le film, j'en ai pas de doute. Hein. Mais y a eu un focus sur ma personne parce qu'il y avait eu tous ces débats. Les révoltes, qu'on a appelées souvent émeutes, mais qui étaient des révoltes, le débat qui s'en est suivi sur la question de la présence des minorités visibles sur les écrans en France. Donc nos présences ne sont jamais anodines. Elles ne sont pas anodines parce qu'il y a de tels blocages qu'on est obligé un petit peu de forcer le trait à travers une comédie, certes très réussie à certains égards, mais qui est aussi dans une forme d'assignation du personnage, pour parler d'Intouchable. Concernant Harry Roselmack, il n'aurait jamais pu accéder à cette chance-là, à ce poste-là en tout cas, de présentateur du JT du 20h sur TF1, s'il n'y avait pas eu tout ce débat. Donc il a été aussi instrumentalisé. Et ce que dit Dubois est vrai. Il y a une longue généalogie dans la représentation qui est faite du corps noir, dans la façon dont on essaye de laisser en même temps à la marge. Et aujourd'hui, c'est cette réflexion-là qu'il faut mener, mais il y a vraiment urgence.
Ça revient dans tous les témoignages, vraiment, je crois que c'est commun à toutes les femmes noires comédiennes qui s'expriment dans ce livre-là. Leur corps, quelle que soit la manière dont elles le disent, est là. Alors, ça peut aller de, je sais pas, l'expérience de la maternité croisée avec leur vie de comédienne, à quelqu'un qui n'a pas de maquillage pour se faire maquiller à Cannes avant de monter les marches, à est-ce que c'est possible que tu rentres tes fesses pour ce rôle-là, à je suis désolée, mais vraiment de coiffure afro dans ce film, ça va pas être possible. Tous les détails du corps sont des motifs de mise à l'écart, de discrimination. Est-ce que vous étiez étonnée de vous rendre compte que à chaque fois, ça passait par là, en fait, que les récits ont passé par là?
L'étonnement, non. Quoique, même s'il y a des comédiennes que je connaissais, j'ai quand même été frappée par certaines anecdotes qu'elles ne m'avaient jamais racontées. J'ai été frappée par la nature de ce qu'elles disaient, mais aussi par le mécanisme à l'œuvre, par le fait que la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, a décidé de se taire pour pouvoir continuer à avancer, a décidé d'intérioriser, de faire abstraction de la violence subie pour continuer à avancer dignement sans être écrasé par un sentiment d'humiliation au fond.
D'ailleurs, je me souviens que l'un des textes dit à quel point ce qui est intériorisé, c'est que je ne dois pas me révolter. C'est que de ne pas figurer sur cette affiche, de ne pas voir mon nom, de ne pas être pris, sous-entend que par ailleurs, je ne dois pas en faire un drame. Je suis tenue, dit l'une d'entre elles, que je ne dois pas en faire un drame.
C'est moi qui dis ça. C'est ce que j'ai écrit dans mon texte.
Vous voyez, comme la parole est collective.
Oui, tout à fait. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'on a réussi notre pari. Et pour revenir à la question du corps, chacune a entendu des réflexions sur des cheveux trop crépus ou le fait que, bon, s'il y a une comédienne avec des cheveux crépus, qui sont quand même les cheveux naturels, hein, des femmes noires, il ne pouvait pas y en avoir deux et encore moins trois. Donc forcément, ça pose la question de savoir quel est le seuil de tolérance de nos amis qui font le cinéma.
Et Rachel Kahn, dans son texte, dit « il y a une politique hors-feu, quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, ça va plus ». Et elle se voit rétorquer que c'est vraiment pas possible d'être la deuxième comédienne avec une coupe afro dans le film, parce qu'on va pas pouvoir les dissocier. Et elle ironise avec beaucoup d'humour et de sagesse sur le fait que oui, elle, en tant que spectatrice, c'est vrai qu'elle s'y perd quand il y a une, deux, trois, quatre, cinq femmes avec des cheveux raides et au carré. Peut-être pour revenir sur la corrélation entre les révoltes en périphérie urbaine 2005 et ces questions-là traitées dans le monde culturel, parce que lorsqu'on vous lit toutes, on ne peut pas faire abstraction de la dimension que ça peut avoir politiquement, très concrètement, c'est-à-dire, moi je n'ai cessé de penser bien sûr à nos écrans de cinéma, mais à l'Assemblée nationale.
Oui.
Mais aux mairies, mais aux conseils municipaux, mais aux conseils d'administration des grandes entreprises françaises, mais je sais pas, aux associations, mais à tous les endroits où c'est décisionnaire. Et je me suis dit que l'enjeu de la visibilité sur les écrans de cinéma était certes un enjeu de représentation, mais aussi un enjeu d'existence politique.
C'est vrai. Et il me semble que ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit se saisir aujourd'hui. On reçoit beaucoup de témoignages depuis la parution du livre, de femmes en général, et aussi beaucoup de femmes noires dans d'autres sphères professionnelles qui sont aujourd'hui en train de s'organiser, de se réunir, de s'identifier les unes les autres pour mettre en œuvre des actions. Il s'agit de journalistes, de femmes qui sont dans la politique et dans d'autres...
Et qui trouvent là un levier, sphères. Quoi.
Oui, qui trouvent là un levier et qui se sont reconnues dans ce livre de témoignages qu'elles ont lu, dans lequel elles se sont totalement identifiées. Elles ont commencé, pour certaines, à me raconter des histoires. Je vous assure que les bras vous en tombent. On a du mal à croire qu'on est en 2018 à Paris et qu'on parle vraiment de notre pays, quoi. Et je pense que le cinéma, il a cette responsabilité, pas simplement par rapport aux acteurs et aux spectateurs, mais effectivement par rapport au corps social en général, parce qu'il renvoie l'image de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Et c'est à lui aujourd'hui de mettre un coup d'accélérateur pour absorber des normes qu'il se refuse à représenter.
Confère ce qui s'est quand même passé avec l'affaire Weinstein et avec ce qui s'en est suivi avec Me Too, c'est que beaucoup ont raillé le fait que ça avait lieu dans Hollywood, dans un endroit très économiquement aisé, avec des actrices, avec des grands producteurs. N'empêche que ça a ouvert la porte à des paroles qui, elles, étaient absolument inaudible. Diverses et tout à fait inaudibles, et que c'est venu d'un endroit de la représentation. Ce n'est pas anodin.
C'est pas anodin, et je pense qu'il y a là-dedans beaucoup de choses dont on peut s'inspirer en France aujourd'hui. Quand cette affaire a explosé, j'avais déjà écrit ce qui est devenu le prologue, mais c'est vrai que ça a été un moment très important, parce que je me suis dit, bon, s'il y a une action à mener aujourd'hui, elle peut vraiment venir
C'est maintenant.
Du cinéma. Elle peut être faite maintenant et elle peut être portée collectivement par des femmes. Nous serons entendus.
J'étais petite, très petite, trop petite pour voir ça. J'avais 6 ans et j'étais cachée, accroupie dans le couloir, chez moi. 3 chambres, salon, cuisine, et ce couloir d'où je pouvais voir sans être vue. L'essence même du cinéma. Ce soir-là passait un film que je n'étais pas autorisée à regarder. Les images m'ont obsédée longtemps. Entre trauma et fascination, je revivais les scènes où cet enfant, petit garçon qui avait sans doute mon âge, pouvait, avec la stridence de son cri, faire exploser les vitres des fenêtres en 1000 éclats défractés. Le vacarme aigu de ses cordes vocales en colère soufflait avec une violence inouïe le cristal des verres et rendait orphelines les mains des adultes déjantées. Et dans ce silence assourdissant, les bouches ouvertes soudain laissaient sans voix l'enfant immobile, l'éclat inattendu de sa toute-puissance, le tambour. C'était le titre du film, un film de Volker Schlöndorff. Mais ça, je l'ai su plus tard. Le cinéma, c'était un secret. Cette chose interdite que je pouvais regarder depuis le couloir et emporter avec moi partout et longtemps, peut-être même pour toujours. Aïssa Maïga, c'est le début du texte que vous signez dans ce livre collectif « Noir n'est pas mon métier », du deuxième texte, car vous en signez le prologue. Et c'est un début qui, il me semble, parle bien sûr de votre très grand attachement au cinéma et de l'origine de cet attachement, mais aussi de tout ce que les autres femmes comédiennes noires racontent de leur propre attachement à l'art, au théâtre, à la fiction et au cinéma elles aussi, et à l'art de la comédie. Et il m'a semblé que ce livre réussissait ça. Cette double force de, à la fois, témoigner, constituer un témoignage commun des discriminations faites à ces femmes noires comédiennes, et en même temps, dire à quel point tout le reste était fort. À quel point leur force, à toutes ces femmes, la vôtre, c'était de croire dans, la puissance de l'art, quoi. La manière dont elles étaient mues par ça. Je trouve que vous réussissez, je ne sais pas si c'était le but, mais à faire aussi passer cela.
À aucun moment, on ne se l'est dit. Encore une fois, on a travaillé dans l'urgence. J'ai donné simplement une liste de mots. Il devait y en avoir une quinzaine ou une vingtaine.
Comme ?
Maternité, féline, discrimination, je ne sais plus bien, mais la liste, évidemment, je l'ai gardée. C'était des mots très simples. Et chacune s'est saisie de son texte sans me dire quel était le mot qu'elle avait choisi. Et c'est vrai que ce qui est ressorti, au-delà des témoignages qui sont très forts, très incarnés...
Et violents.
ce qui est ressorti, c'est cette vibration première et qui, même lorsqu'elle est mise à mal, ne nous a jamais, jamais, jamais quittés. Et c'est aussi, c'est ce qui est devenu ce livre, ça a été une occasion de faire battre de nouveau cette vibration, ce cœur, et de lui donner corps. Et il y a, chez certaines des comédiennes, un sentiment, une expérience de résurrection.
De renouvellement,
quelque chose qui est vraiment en train de revivre, de se réaffirmer. Et qui permet la réappropriation de soi, de sa propre histoire, et qui redonne une place au rêve comme moteur très, très puissant dans une, existence.
Ce qu'on pourrait appeler en mauvais français de l'empowerment.
Empowerment,
par exemple.
Exactement.
Vous dites mieux que moi. Mais ce qui va à l'encontre de toute la simplification et de l'appauvrissement du métier que l'on propose de faire à ces femmes noires, c'est-à-dire qu'en proposant, en ne donnant pas de rôle ou en proposant des rôles pauvres ou stéréotypés, on assèche. Et on va à l'encontre de la très grande profondeur de ce qu'elles mettent dans ce que c'est que de jouer la comédie et de représenter des êtres dans des aventures de fiction. Donc ça va vraiment à l'encontre de ça. Et je voulais le dire parce que ça en fait quelque chose de l'inverse de ce qu'on peut entendre de propos de victimisation.
Exactement.
Absolument à l'inverse de ça.
Et pour rebondir là-dessus, dans ces cheminements un peu difficiles, certaines sont devenues productrices, d'autres se sont révélées des chanteuses. Être des chanteuses incroyables. Certaines sont devenues scénaristes, réalisatrices. Et le livre raconte ça également. La façon dont chacune s'est emparée de ce qui était des faiblesses pour en faire une force de proposition.
Merci beaucoup. À suivre un documentaire de part et d'autre de l'Atlantique. Sous votre caméra ?
Oui. Ok. Co-réalisé avec Isabelle Simeoni.
Sur ces questions-là, mais plus seulement en France. Merci beaucoup à Issa Maïga. Noir n'est pas mon métier. C'est un livre collectif, on l'a entendu, et c'est paru au Seuil.
Merci.
Au son ce soir, c'était Manon Houssin à la réalisation, Olivier Guérin, Jeanne Aléos, Romain Debec-de-Lièvre, Corinne Amar m'aident à préparer et à penser cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h.
Je suis contre les chastetés, étouffante fraternité, pleurs de glace sur ce qui peut brûler. Je suis contre les chastetés, ce qui se caresse et cicatrisé. Où Seigneur merci en dessaigner, l'œil immense sur son silence déposé. Car ce gamin-là me montre tout et pointe du doigt.